On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et si vous êtes effectivement hypochondriaque en ce moment, vous ne devez pas être très très bien avec tous les messages de prévention de la grippe, avec tous les gros titres sur cette épidémie. On va en parler ce soir avec vous qui êtes hypochondriaque. Vous êtes persuadé que vous êtes malade tout le temps et vous pensez d'ailleurs très souvent que vous avez une maladie grave, alors qu'en fait vous allez très très bien. Vous êtes toutes les 4 matins chez votre médecin, les sites médicaux sont devenus vos principales lectures. Le diagnostic est tombé, vous êtes hypochondriaque. On va en parler avec vous ce soir, avec vous qui vivez peut-être aussi avec un parent, un mari, une femme, un enfant hypochondriaque. Comment ça se gère au quotidien? Parce que même si ça peut nous faire sourire, l'hypochondrie peut parfois prendre des proportions telles que la vie sociale, familiale, scolaire aussi devient très compliquée. 0810 055 056, venez en discuter avec nous ce soir en compagnie de notre grand témoin, la psychologue Michèle De Clercq, spécialiste de la question, qui a d'ailleurs sorti un livre qui s'appelle « Le malade malgré lui » aux éditions Erol. Bonsoir Michèle De Clercq.
Bonsoir.
Comment est-ce qu'on reconnaît et comment est-ce qu'on diagnostique un hypochondriaque? Parce qu'on a tous déjà vu quelqu'un qui dit « Oh, je sais pas, je me sens pas très très bien », mais à partir de quel moment on se dit qu'on est hypochondriaque?
Je crois que le premier indice, c'est la fréquentation médicale. L'hypochondriaque, il est capable de voir son médecin généraliste 3 fois par semaine, de fréquenter tous les spécialistes possibles et imaginables les uns après les autres, de réclamer des examens toujours plus sophistiqués, scanner, IRM, etc. Et il n'est jamais satisfait parce qu'il est à la recherche de ce qu'il pourrait bien avoir. Parce qu'il y a effectivement une curiosité considérable de l'hypochondriaque par rapport à la maladie.
Ça peut aller très loin, jusqu'à la folie.
La folie, non, mais c'est presque du délire. Hein. À partir du moment où on s'imagine atteint, effectivement, de mots inventés, c'est presque du délire.
Oui. C'est compliqué pour l'hypochondriaque, c'est compliqué pour son entourage aussi. Comment on peut rassurer un hypochondriaque? Ça paraît compliqué sur
le
papier.
C'est surtout compliqué pour l'entourage, parce que l'entourage, il est sur une ligne de crête, en quelque sorte. C'est-à-dire que s'il fait mine de ne pas trop écouter l'hypochondriaque va se sentir abandonné, hein, parce que dans toute hypochondriaque, il y a un ancien allô maman bobo. Si on l'écoute trop, il va y trouver la confirmation qu'il est réellement malade et digne d'attention. Donc c'est très très compliqué. Ce qui fait que pendant très longtemps, c'est l'entourage qui nous envoyait les hypochondriaques. Maintenant, ils commencent à venir eux-mêmes.
Eh bien, venez nous rejoindre, vous aussi, si vous êtes concerné, si vous êtes hypochondriaque, si vous l'avez été, si vous vivez avec une personne hypochondriaque. 0810 055 056, c'est le numéro dont se dit tout. Soyez pas timide, on n'est pas là pour vous juger. Bien au contraire, on essaye de comprendre comme on le fait chaque soir sur France Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous passez votre temps chez les médecins ou dans les pharmacies, vous pensez être atteint des pires maux, de préférence très graves, et vous vous préoccupez en permanence de votre santé. Vous êtes un éternel malade, ce qu'on appelle aujourd'hui un hypochondriaque. Comment on reconnaît un hypochondriaque? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que ça se soigne? Comment vivre aussi avec un hypochondriaque au quotidien? 0810 055 056, venez nous rejoindre si vous êtes d'un côté ou de l'autre, vous êtes hypochondriaque ou vous vivez avec un hypochondriaque. Notre grand témoin ce soir, c'est Michèle De Clercq, psychologue et auteur du livre « Le malade malgré lui » aux éditions Erol. Et on va démarrer cette émission en partant en Alsace chez Serge. Bonsoir Serge.
Bonsoir.
C'est compliqué quand on est hypochondriaque, vous dites c'est une catastrophe.
C'est une grosse catastrophe pour les gens qui nous entourent. Ouais.
On vous entend pas très bien Serge, est-ce que vous êtes loin de votre téléphone ou pas?
Vous m'entendez là?
Ah ouais, c'est mieux là, c'est un petit peu mieux. Ouais. Pourquoi vous dites que c'est une catastrophe alors?
Mais parce qu'on embête tout le monde et puis voilà, c'est du 24 heures sur 24 et puis on embête sa femme et ses enfants et tout le monde.
Ça se présente comment? Vous leur posez des questions? Quand vous dites je les embête,
Je me plains tout le temps, voilà. J'ai tous les jours autre chose d'ailleurs, aujourd'hui encore, vous voyez.
C'était quoi aujourd'hui par exemple?
Aujourd'hui c'était mes lombaires.
Vous aviez mal au dos?
Ouais, mais vraiment mal quoi.
Mais en même temps, on a tous un petit peu mal au dos. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, quand vous avez mal au dos comme ça?
À votre avis, le pire. Hein.
Ouais.
Le pire du pire.
Et qui arrive à vous calmer un petit peu par rapport à ça?
Mon toubib. Parce que c'est mon médecin et puis en même temps, c'est mon ami. Donc,
C'est votre ami depuis que vous allez le voir tout le temps ou c'était votre ami avant?
Non, mais c'était depuis 25 ans.
Ouais.
Après, on est devenus amis, quoi.
Vous le voyez.
Ami, pas parce que j'étais hypochondriaque, pas du tout. C'est que voilà quoi, ça accroche avec lui. Et puis on se voit en dehors de ce sont des consultations. Quoi.
Vous le voyez souvent, votre médecin?
Ben, avant, je le voyais très très souvent là. Maintenant, ça me gêne d'aller le voir. Mais bon, quand ça va pas, je vais le voir quand même. Quoi. C'est mon tout-bit, c'est mon psy. C'est... Voilà, il y a qui arrive à me raisonner. Je sors de chez lui, j'ai... Voilà.
Ça va mieux quand vous le voyez, quand vous l'appelez?
Ah ben, non, je l'appelle pas. Je vais le voir en consulte. Je prends un rendez-vous où je fais la phase d'attente comme tout le monde. Et puis, quand je ressors, tout va bien. Jusque deux jours après.
Michel Declercq, quand on entend Serge, c'est vraiment le parcours, le quotidien typique d'un hypochondriaque?
Oui, bien sûr, mais j'ai envie de demander à ce monsieur si ses symptômes sont des symptômes de vagabondage, en quelque sorte. Hein. Aujourd'hui, ce sont les lombaires. Est-ce que ça change selon les moments, selon les jours? Ou est-ce qu'effectivement, il y a des organes qui le préoccupent davantage que d'autres?
Quand j'ai un mal de tête, ça y est, c'est la cata. C'est...
Oui.
Donc un jour, ça peut être la tête, le lendemain, le dos, après, c'est ça, ça change.
Le matin, la tête, et l'après-midi, autre chose.
Hein. Ouais.
Et alors, vous êtes toujours, effectivement, dans le pronostic le plus grave, bien entendu.
Bah, le petit mot cancer, quoi.
Et est-ce ça, que vous fréquentez Internet?
Alors, j'évite, mais ce qui est bizarre, c'est que je transporte que des malades, vous voyez.
Comment ça?
Voyons. C'est-à-dire que je suis artisan en taxi et je fais du transport médical.
Ah, d'accord. Vous êtes dans un milieu favorisé, si j'ose dire.
Ouais, mais j'étais déjà avant de transporter des gens malades, quoi.
Et ça a augmenté un petit peu votre angoisse de voir des malades tous les jours?
Mais en fait, j'essaie de relativiser, puis je me dis que je devrais certainement pas me plaindre par rapport à eux qui sont vraiment malades, quoi.
Est-ce que vous avez déjà eu quelque chose de grave, Serge?
Non.
Non, mais c'est bien de se le dire aussi de temps en temps. Depuis 25 ans.
Depuis 57 ans.
57 ans. Ah oui, parce que vous me disiez que ça faisait 25 ans que vous connaissiez le médecin, mais ça fait plus longtemps que ça que vous êtes hypochondriaque.
Non, ça fait depuis l'âge de 20 ans. Ouais.
Il y a eu un événement déclencheur, effectivement, à votre hypochondrie?
Oui, mais c'est quoi? Je pourrais pas en parler comme ça, c'est pas possible.
Il y a toujours quelque chose, si on cherche bien, Michel Declercq, il y a souvent un pas élément
déclencheur.
Pas forcément,
ça peut être simplement un climat au niveau de l'enfance. Hein. Par exemple, les hypochondriaques sont souvent des enfants surprotégés, effectivement. Mm-hmm. Mais il peut y avoir eu aussi une maladie grave qui a fait qu'on s'est occupé spécialement d'eux, ou une mort subite dans la famille qui a effectivement inquiété l'enfant ou l'adolescent en question. Il peut y avoir des éléments déclencheurs, mais souvent, ce sont quand même des enfants surprotégés.
Ça commence à... Il y a des âges clés quand on devient hypochondriaque. Ça peut arriver à certaines phases de la vie, l'adolescence, l'âge adulte. Ça peut arriver à n'importe quel âge?
Je pense que la tendance hypochondriaque doit venir de l'enfance, tout de même, de la façon dont effectivement l'enfance
mais
a
ça
été
peut se réveiller
entourée, surprotégée. Mais dans la vie... Effectivement, il peut y avoir ce que j'ai appelé tout à l'heure des éléments déclencheurs, c'est-à-dire qu'on va tout à coup avoir une récidive, en quelque sorte, parce que quelqu'un de votre âge vient de décéder, ou parce qu'une vedette de la télévision ou de la chanson vient de mourir d'un cancer, ou pour tout autre événement.
Quand je vous écoutais, Serge, ça me rappelait ce film de Danny Boone. Vous l'avez vu, ce film?
Ouais, mais là, ça c'est... Non, moi, c'est pas du tout ça. Hein.
Il est copain avec son médecin, il va le voir souvent.
Ouais, non, mais moi, c'est pas vrai. Moi, ça se passe pas comme ça, quoi. Mais moi, tout vient de l'enfance. Et il a bien... Là, c'est vraiment... Mais
bon, ça vient de là.
En parler.
Est-ce que vous travaillez dessus, Serge? Est-ce que vous voyez un thérapeute par rapport à ça?
Non. Mon thérapeute, c'est mon généraliste, parce que lui me connaît comme il faut. Et voilà, il m'explique bien les choses. Et puis, voilà. Des fois, ça dure une semaine, on est bien. Et puis, voilà.
Et ça se réveille
mais
après.
Il se lasse pas, votre généraliste?
Ah, non. Ah non, parce qu'il me dit, tu m'appelles quand tu veux, mais je le fais jamais. Parce que, quand je vais le voir, je lui pose des petites questions, il comprend de suite de quoi je veux parler. Et il me dit toujours, non, il n'y a pas de cancer. Non, toujours pas, il n'y aura peut-être pas.
Bon, il vous voit venir, en fait.
Pardon?
Il vous voit venir.
Ah, mais chaque fois.
Il sait pourquoi.
Quand je viens, quand je viens il sait pourquoi je viens, déjà. Voilà, il le voit de suite.
Merci Serge de nous avoir appelé et j'espère que ça va aller. Calmez-vous, tranquille, tout se passe bien, c'est que de la radio. Hein.
Ça ira quoi.
Ouais. On vous embrasse Serge.
Merci.
Au revoir. Vous êtes hypochondriaque ou vous vivez avec une personne hypochondriaque, venez nous rejoindre sur France Bleu au 0810 055 056. Peut-être que ça s'est réveillé il y a peu de temps, peut-être que ça fait des années, peut-être que vous avez travaillé, on parlait de certaines choses qui peuvent se réveiller après l'enfance, des histoires qui se passent à l'enfance, à l'adolescence. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous avez trouvé la raison de votre hypochondrie, en fait? On en parle ce soir avec notre grand témoin, Michel Declercq, qui est psychologue et un peu spécialiste de la question désormais, avec un livre vraiment que je vous recommande, qu'on retrouve sur Amazon. Il n'est plus tellement disponible à la vente, mais sur Amazon, on le trouve quand même. Ça s'appelle Le malade malgré lui, aux éditions Erol. Déjà épuisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu besoin de ce livre et ça tombe bien.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les hypochondriaques, c'est le sujet dont se dit tout. Ce soir sur France Bleu, ils passent un temps fou chez le médecin, à la pharmacie, ils réclament des examens en tout genre et ils sont rarement malades, sauf peut-être de cette maladie qu'ils ignorent et qui s'appelle l'hypochondrie. Vous avez peut-être connu ça à un moment de votre vie. Il paraît que c'est très dur à vivre pour soi mais aussi pour les autres. Venez témoigner ce soir au 0810 055 056. Notre grand témoin est psychologue et sophrologue, c'est Michel Declercq qui est avec nous ce soir. Et nous sommes avec Pauline sur France Bleu. Bonsoir Pauline.
Oui, bonsoir.
On va parler de votre petite fille, elle a 10 ans et elle est hypochondriaque.
Eh oui, et c'est la galère.
Ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, depuis toute petite, elle m'a connue tout le temps hospitalisée et malade. Et du coup, dès qu'elle a quelque chose, c'est terrible.
Mais vous étiez réellement malade?
Oui, moi réellement malade.
Et d'une maladie grave?
Grave, on va dire ça comme ça.
Enfin, invalidante en tout cas.
Disons qu'elle a grandi avec une tumeur que j'avais et que j'ai opérée quand elle est née.
Donc elle a suivi ça, elle vous a vu à l'hôpital.
Elle a suivi de très près. Et donc, dès qu'elle a quelque chose, c'est tout de suite le drame, quoi.
Ça se présente comment quand vous dites c'est le drame, c'est-à-dire qu'elle est dans tous ses états?
Elle est dans tous ses états. Elle a mal, il faut aller chez le médecin, il faut mettre de la pommade, il faut la masser.
Mais est-ce qu'elle a des organes de prédilection ou des maladies qui la préoccupent particulièrement?
Non, du tout. Non, ça peut être une douleur à la tête, voilà. Ça peut être mal au... Là, ce soir, c'était mal au pied, mais c'est mal au coude. C'est tout le temps. De toute façon, à l'école, ils sont prévenus, ils ont un tube d'arnica, et puis voilà.
Est-ce que pour autant, elle continue à se préoccuper de votre santé, à vous?
Elle n'en parle pas.
Non, elle n'en parle pas, mais c'est peut-être là quand même.
Oui, non, mais de toute façon, parce qu'elle est suivie par une psy. Mais c'est invalidant quand même, parce qu'on s'inquiète tout le temps. À savoir quand c'est vrai et quand c'est pas vrai.
Et à l'école, ça se passe comment? Vous dites qu'il y a toujours un tube d'arnica. Est-ce qu'à l'école, pendant la classe, par exemple, elle peut se dire d'un seul coup, il y a quelque chose qui ne va pas?
Ah oui, tout à fait. Mais à l'école, ils sont prévenus. S'il n'y a pas 42 fièvres, elles ne vomissent pas, je ne me déplace pas. Sinon, c'est tout le temps.
Ils en disent quoi, d'ailleurs, à l'école, quand les maîtresses, comment elles réagissent par rapport à ça?
Ils lui disent que ça va passer. Ou alors, tu veux que j'appelle ta mère? Mais ils ne m'appellent pas, parce que moi, j'ai passé les conditions.
Et savez-vous ce que la psy fait avec elle? Quelle est la méthode qu'elle essaie d'employer pour la guérir de plus ou moins de son hypochondrie?
Elle a pas que cette pathologie-là. Donc elle est suivie très régulièrement. Oui. Et je suis avec elle quand on est en suivi.
Et ça la calme, ces séances? Ça la rassure un petit peu?
On en parle. Parce qu'au départ, elle avait aussi énormément de TOC. Et dès qu'elle est stressée ou pas bien, ces tocs reviennent.
Ça peut être lié, tout ça aussi?
Oui, ça peut être lié parce qu'il y a effectivement une forme, je dirais, un type d'hypochondriaque qui sont obsessionnels. Et à ce moment-là, effectivement, c'est lié et ça peut être compatible, si j'ose dire, avec des tocs ou avec d'autres manifestations obsessionnelles. Mais l'hypochondrie, pour eux, c'est une obsession comme une autre, en fait, dans la mesure où ils ne pensent qu'à ça.
Comment ça se soigne? Là, on voit bien qu'il y a un suivi psychologique. Vous êtes psychologue, sophrologue. On peut combiner les deux. On peut réussir à calmer cette angoisse.
Alors, on peut tout à fait réussir à condition d'employer la bonne méthode. Très longtemps, on a employé la mauvaise méthode parce que finalement, l'hypochondrie, c'est pas une maladie physique. Donc, elle va aller voir son médecin ou un spécialiste, ça ne sert à rien. Hein. Et ce n'est pas non plus une maladie mentale. Donc, ça veut dire que les psychiatres ne sont pas non plus en première ligne pour soigner l'hypochondrie. C'est une maladie qui est à la fois, je dirais, du corps et de l'esprit. D'ailleurs, j'ai inventé un petit dessin qui s'appelle la spirale hypochondriaque, qui montre très très bien comment, d'une sensation anodine, en quelque sorte, hein, au niveau du corps, on peut graduellement, à travers l'attention qu'on y porte, l'émotion qu'elle déclenche, l'investigation médicale, arriver à quelque chose de relativement délirant, en fait. Donc c'est à la fois du corps et de l'esprit. Donc ça veut dire que les méthodes qui sont efficaces pour l'hypochondrie, ce sont des méthodes qui vont partir du corps pour aller jusqu'à l'hallucination, en quelque sorte, hypochondriaque. Donc, toutes les méthodes qu'on appelle aujourd'hui psychocorporelles, moi, je pratique la sophrologie, mais
l'hypnose aussi, hein, peut-être.
Comment?
L'hypnose, ça peut marcher?
Oh, l'hypnose peut marcher. L'inconvénient de l'hypnose, c'est qu'elle est plus difficile à intégrer à la personnalité consciente. Or, moi, je suis persuadée que pour soigner l'hypochondrie, il faut avoir une dimension pédagogique. Il faut expliquer aux gens pourquoi ils sont hypochondriaques.
C'est facile de l'expliquer à une petite fille de 10 ans, par exemple. Elle est toute petite encore, 10 ans. Est-ce qu'on comprend tout ça à 10 ans?
Oui, on comprend tout ça quand on le vit avec son corps. Si ça se borne à des paroles, c'est pas suffisant. Mais si on vit dans son corps, comment on peut passer d'une sensation a priori anodine à quelque chose qui finalement stimule l'imaginaire au point de devenir quelque chose de très inquiétant? On peut le comprendre parce qu'on le vit en même temps.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Pauline?
Oui, ça a commencé très très jeune. Hein. Et je pense que dès qu'elle a eu conscience de, qu'elle avait ce pouvoir-là, parce que pour elle c'est un pouvoir, hein, elle l'a su.
Alors quand vous parlez de pouvoir, c'était un pouvoir dans quel sens?
Est-ce que... Bah, c'est une façon pour elle de se faire, je ne vais pas dire materner, mais presque
oui,
à l'école, de se faire remarquer.
Qu'on s'occupe d'elle.
Mais surtout par vous, je suppose.
D'elle.
Non?
Oui, non, mais bon, parce que je passe au-dessus. Maintenant, quand elle a mal quelque part, oui, on lui dit oui, ok, on sait. Mais voilà. On ne sait rien de plus. Je ne vais pas lui donner. Ben, elle le sait, de toute façon, elle se lève le matin. Oh, ben, j'ai une migraine, je vais prendre un doliprane. Non.
Oui, voilà. elle vit dans ce contexte.
Voilà. Donc.
Est-ce qu'elle c'est envisage compliqué. De faire des études de médecine?
Oh non, non, parce qu'elle a des difficultés scolaires en plus.
Non mais c'est...
Honnêtement, c'est ce qui pourrait lui arriver de pire. Hein,
ah oui,
parce qu'effectivement, c'est dans les familles de médecins qu'on trouve le plus hypochondriaque.
Ah ouais, ah, c'est étonnant ça.
Ah oui.
C'est
et vous étonnant. Avez des médecins qui sont très hypochondriaques.
Ah, ça serait bien qu'on en ait un médecin hypochondriaque, j'aimerais beaucoup.
Mais ça s'explique parce que qu'est-ce que c'est que l'hypochondrie? C'est la maladie du corps médicalisé. Et à partir du moment où on vit dans un milieu médical, on ne ressent plus son corps comme quelque chose de normal, mais comme une espèce d'anatomie, en quelque sorte, qu'on est obligé de supporter.
Merci beaucoup Pauline de nous avoir appelé. Merci pour votre témoignage. On vous souhaite une excellente soirée en espérant qu'il n'y ait pas trop de bobos de la part de votre fille ce soir. Vous êtes hypochondriaque ou vous vivez avec une personne qui a l'impression d'être tout le temps malade, qui prend beaucoup de médicaments, qui se plaint tout le temps, avec qui c'est pas facile d'ailleurs au quotidien de vivre, toujours en stress permanent. Venez en parler avec nous ce soir sur France Bleu, c'est le sujet d'On se dit tout. 0810 055 056.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
On estime que 5 à 10% des consultations en médecine générale sont sans objet réel, que les patients viennent pour rien et ne sont pas malades. Si vous dites ça à un hypochondriaque, il ne va pas vous croire évidemment, car lui est persuadé d'être malade et même gravement malade. On en parle ce soir sur France Bleu et on se dit tout sur les hypochondriaques. C'est peut-être vous ou quelqu'un avec qui vous vivez. Comment ça a commencé? Comment ça se gère ou pas au quotidien? 0810 055 056 pour venir en discuter en compagnie de notre grand témoin, la psychologue Michèle De Clercq, auteur du livre « Le malade malgré lui, comprendre et aider un hypochondriaque » aux éditions Erol. Et nous sommes à Guéret chez Christine maintenant. Bonsoir Christine.
Bonsoir Vanessa, bonsoir Michèle.
Bonsoir.
Bonne année à toutes les deux.
Merci à vous aussi Christine. Alors c'est pas vous qui êtes directement concernée, c'est votre grand-père qui était hypochondriaque et vous avez vécu ça finalement.
Oui, tout à fait. Surtout quand on était enfant, on allait en vacances, souvent comme beaucoup de gosses de Paris, on allait rejoindre notre grand-père en Lot-et-Garonne. Et mais dès qu'il avait quelque chose, d'abord il savait mieux que le médecin déjà, et puis il avait toujours des choses très graves. Vous êtes sûr, vous me dites ça docteur, mais c'est grave et tout. Voilà, ils vivaient ça. Puis alors nous, si on avait le malheur de dire quelque chose, oui, mais tu te rends pas compte, j'ai sûrement quelque chose de très grave. Alors nous qui étions enfants, qui étions ravis d'être en vacances avec lui, on n'avait plus du tout envie d'y aller.
Ça se conçoit.
Nous, oui. Les enfants à 7-8 ans, ça vous choque un peu, ça. Mmh.
Et alors, qu'est-ce qu'il croyait avoir comme maladie, votre grand-père?
N'importe quoi, je sais pas comment vous dire. Par exemple, s'il lui disait qu'il avait un problème à l'estomac, il disait qu'il avait... il savait mieux que lui. Il pouvait avoir, par exemple, je sais pas moi, un œdème, enfin, voilà, des choses vraiment qu'il...
Et alors encore, heureusement, il n'y avait pas Internet à l'époque,
enfin, bon,
hein, Christine.
Oui, les ventrations, enfin bon, voilà.
Ah oui, ça va. Heureusement.
Ça pouvait aller très loin.
Heureusement, il n'y avait pas Internet quand même à l'époque, ça aurait été pire.
Non, pas à ce moment-là.
Non, mais il y avait des encyclopédies médicales. Et les gens fréquentaient encyclopédies médicales avec les dessins.
Ah oui, il allait voir.
Oui, oui.
Il sortait de là, il était blanc, mais bon, c'était. Oui. C'était. Il se faisait plus de mal qu'autre chose. Parce que c'est pas facile à vivre pour nous, mais c'est pas facile à vivre pour eux non plus.
Bien sûr.
Pour eux.
Et si jamais vous arriviez en vacances avec un gros rhume, avec une sinusite, une angine, c'était une catastrophe pour votre grand-père? Il avait peur d'attraper vos maladies?
Surtout pas. Ah oui, oui, oui.
Ah oui.
Ah oui, oui. Alors non, je vais être malade et tout. Il était là.
Bon, c'était un hypochondriaque particulier parce que généralement les hypochondriaques sont très égocentriques, c'est-à-dire qu'ils craignent pour leur propre santé, mais ils sont relativement indifférents à la santé des autres. Donc c'était un hypochondriaque particulier.
Je vous rejoins à ce niveau-là, oui, par le fait que d'une certaine manière, pour pas que ça le touche.
Oui.
Oui. Mmh. Oui, oui, d'une certaine, indirectement, oui.
Les autres, c'est moins grave, en fait.
Les autres, c'est moins grave.
Ces petits enfants, ils nous aimaient. Oui. Quand il se tracassait pas trop par rapport à ça, c'était un super grand-père, hein.
Je parle de ça parce que là, on est en pleine épidémie de grippe. On a eu la gastro aussi à un moment donné. C'est compliqué, Michel Declercq, la période en ce moment pour les hypochondriaques.
Surtout qu'il y a beaucoup d'hypochondriaques qui sont quand même des personnes âgées.
Oui.
Parce qu'effectivement, ils se sentent un peu fragilisés, on peut le comprendre. Et quand on vous dit que la grippe, ça touche évidemment les plus de 65 ans et que ce sont eux qui décèdent de la grippe, ça n'est pas fait pour rassurer les hypochondriaques, c'est évident.
Mais les jeunes aussi ont peur, on en croise, on va pas citer de nom, mais on a quelqu'un ici à France Bleu qui veut absolument plus aucun contact, on se fait plus la bise, on se serre pas la main, parce qu'il y a peut-être possibilité d'attraper quelque chose.
Oui, d'ailleurs, vous parliez du film de Danny Boone tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a aussi la deux catégories d'hypochondriaques. Il y a ceux qui craignent ce qui viendrait de leur corps. Vous parliez de maladies auto-immunes, par exemple, tout à l'heure. On ne sait pas ce que notre corps nous réserve, donc quelque chose qui viendrait de l'intérieur. Et puis, il y a ceux qui ont peur d'être contaminés par les autres.
Par l'extérieur.
Et là, dans la grippe, on est tout à fait dans ce cas de figure, bien évidemment.
Et vous, Christine, ça va, ça n'a pas sauté de génération. Vous n'êtes pas hypochondriaque?
Ah non, du tout.
Non.
Du tout, du tout. Non.
Tant mieux.
Non, de ce côté-là, ça va. Ma fille, ouais. Ça va aussi. Non, j'aurais eu un mari hypochondriaque. Je me serais revue avec le grand-père, non, c'est bon.
C'est vrai que le quotidien, j'espère qu'on aura aussi une épouse ou un mari d'une personne hypochondriaque, parce que ça ne doit pas être facile au quotidien.
Mais ils se font du mal, je pense. Oui,
de rassurer,
que,
voilà.
C'est ça, en fait. Et le fait d'être hypochondriaque, je me demande si... de toute façon, ça évite pas la maladie, ça, c'est sûr. Mais ils pensent qu'en étant comme ça, ça peut aussi éviter... une maladie qui pourrait dire, oh là, j'ai ça.
Oui, ça, on le croit quelquefois et c'est pas tellement juste. Moi, je pense que la seule maladie vraiment qui guette les hypochondriaques, c'est qu'à force de s'auto-médiquer et de mélanger effectivement les prescriptions, ils finissent par faire ce qu'on appelle des maladies iatrogènes, c'est-à-dire des maladies qui sont créées par les médicaments.
Voilà, tout à fait. Oui, par eux-mêmes. Oui,
absolument. Beaucoup d'hypochondriaques qui sont malades de leurs médicaments.
Voilà, c'est ça.
Christine,
ouais,
merci.
Parce qu'ils en ont trop pris, ou ils n'ont pas fait la bonne posologie.
Ah oui, puis ils ont lu les modes d'emploi et les contre-indications. Ça aussi, ça les rend malades. Ben oui.
Merci Christine pour votre témoignage. Merci d'être venue ce soir sur France Bleu. Les hypochondriaques, c'est le sujet dont se dit tout. Jusqu'à 22h, vous avez la parole pour nous parler de votre quotidien à vous d'hypochondriaque ou de mari ou de femme d'hypochondriaque. Ce sera le cas de Jean-Pierre dans un instant. Il est à Aubagne et on parlera de sa compagne qui est un peu hypochondriaque quand même. Un peu beaucoup même, on va dire.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
13% des Français seraient hypochondriaques. Seraient, hein, c'est peut-être beaucoup plus. Ça prête parfois à sourire, mais c'est très difficile à vivre pour l'hypochondriaque déjà, pour son entourage aussi. Il suffit qu'il ait des fourmis dans le bras gauche pour penser à un infarctus. Un simple point de côté se transforme en cancer du foie. Eh bien, ce soir, on a décidé de prendre le sujet très au sérieux. Si vous pensez que vous êtes hypochondriaque, si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous vivez avec une personne hypochondriaque, venez nous rejoindre au 0810 055 056. Notre grand témoin ce soir est psychologue et sophrologue, c'est Michel Declercq qui est avec nous. Et nous sommes à Aubagne chez Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir.
Ça va Jean-Pierre, ça va vous?
Oui, moi ça va. 62 ans.
62 ans, oui.
Et puis, je suis pas médicament, voilà.
Mais votre femme l'est?
Ma compagne, elle a des valises entières de médicaments.
Mais elle va chez le médecin ou elle les prend toute seule?
Ben, elle va chez le médecin et elle le prend elle-même.
L'automédication, donc?
Voilà, l'automédication.
Mais elle les prend pourquoi? Qu'est-ce qui va pas bien? Elle a peur de quoi?
Ben, on le sait même pas pourquoi. Elle fait, comme on dit chez nous, elle fait un P de travers. Et de suite, ça y est, c'est la cata, quoi.
Mais par exemple, quel est le type de médication qu'elle prend, puisque vous parlez d'automédication?
Les aigreurs, parce qu'elle a un peu des aigreurs, parce qu'elle a un peu mangé, hop, ça y est, ça...
Les aigreurs d'estomac, oui.
Des estomacs. Là, elle a acheté dernièrement, là, ils sont Paris. Mais elle a pris Hepatum pour dégager la gorge.
Oui.
Alors que c'est un produit, ça, c'est quand on fait des gros repas et tout ça, pour le foie.
Oui, mais c'est pas bien méchant, tout de même.
Oui, non, c'est pas...
Elle risque pas grand-chose.
Mais elle a une valise pleine. Moi, à 62 ans, je n'ai pas de remède à la maison. J'ai même pas une aspirine.
Et elle n'a pas envie parfois de vous donner des médicaments? Elle vous dit pas « Oh Jean-Pierre, tu devrais prendre ça, t'as l'air fatigué, t'as l'air... » Non, elle insiste pas trop?
Non, vous savez pourquoi?
Non.
Parce qu'elle sait que moi je suis pas médicament. Là, ça fait 3 semaines que je suis là avec une bronchite abominable, j'ai eu les piqûres et c'est fini.
Ben oui, c'est ça. Faut pas se prendre la tête non plus. Mais on voit que là, Jean-Pierre est relativement calme, hein, par rapport à sa compagne. Il faut les laisser. Faut pas trop rentrer dans leur jeu non plus, Michel.
Ça dépend dans quelle mesure c'est gênant ou pas.
Là, ça a pas l'air de
gêner. J'ai l'impression que Jean-Pierre en a pris son parti, en quelque sorte, d'une certaine façon.
Hein. Avec humour.
Il allait se débrouiller avec ses médications.
Merci Jean-Pierre d'être passé par France Bleu. On quitte Aubagne pour la Haute-Savoie. C'est Denis qui est avec nous. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Alors vous le dites, hein, depuis que vous avez 14 ans, vous êtes hypochondriaque.
Tout à fait.
Et pourquoi depuis l'âge de 14 ans? Qu'est-ce que ça vous dit?
Ça me dit que depuis l'âge de 14 ans, ben, j'étais très fatigué. Et je faisais beaucoup d'années, je faisais de l'animation à l'époque. On commençait assez tôt, à 14 ans et demi. J'étais animateur et puis très fatigué. J'ai eu une émission sur la leucémie et puis après c'est là où j'ai le souvenir d'avoir commencé à vouloir faire des prises de sang, surprises de sang, etc. Et à mes frais, le médecin me rassurait pendant 2 ou 3 jours, comme j'ai entendu d'autres éditeurs. Et puis il a fallu que je recommence et puis voilà. Et je voulais rajouter que je rejoins le spécialiste qui est avec vous là, je sais pas comment on dit.
La spécialiste, on dit bah oui, on féministe quand même.
Madame la maire.
je suis dans un, j'étais dans un milieu très très protégé et tous les enfants ont eu des problèmes psychiques. Bon, moi je sais que je suis hypochondriaque, mais il y a bien d'autres choses qui se greffent autour. Mais je le suis toujours j'entendais aussi, entre autres, c'est le cœur depuis longtemps. J'ai peur que le cœur lâche et les cancers, voilà. Mais il y a bien des raisons à ça aussi, comme disait le spécialiste ou le docteur, ou ce que j'entends pas très bien, puis je suis un peu ému, c'est la première fois que je prends la...
mais Denis, aujourd'hui, ça va mieux? Enfin, vous trouvez...
Non, pas du... non pas du tout. Là, je suis en arrêt, j'ai un sein combat depuis l'âge de 14 ans et demi. Tout le milieu a été assez touché, sans se justifier, bien sûr. Et c'est une réelle souffrance, c'est sûr. Et en effet, un hypochondriaque, il est assez... il est assez égocentrique, mais en même temps, il a des sentiments. Moi, je vois si mes enfants souffrent, je vais avoir peur, je vais avoir peur eux, je vais être pas bien. Mais moi, personnellement, je suis beaucoup axé sur moi, ma femme Marine me le dit, et c'est vrai parce que je pense surtout à essayer de me sortir de mes impasses pour la vie sociale, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas que l'hypochondriaque, il y a aussi ça, on dévie vite aussi sur d'autres terrains de la vie. Je pense, mais bon. Alors donc, je suis assez sur mes pensées, et c'est vrai que la souffrance des autres, on oublie aussi, ou on n'y prête pas assez attention. C'est possible aussi, ouais.
Michel, parce qu'on prête toute son attention à sa propre santé, hein. Il ne reste pas beaucoup de place pour l'attention aux autres.
Mais vous êtes, je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel, mais Denis est très lucide par rapport à son état.
Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, bien sûr. Sauf qu'il n'y peut pas grand-chose. Parce que c'est tout de même son attention à sa propre santé qui est prioritaire dans toute cette histoire.
Mais Denis, je vois sur votre fiche, et on va faire très court, mais vous voyez un psy, je crois. Hein.
Tout à fait. Ouais, j'ai fait pas mal de psychothérapie, là j'ai fait thérapie cognitive, mais j'ai arrêté. Là je vais en médecin privé, un psy privé, mais là je vais aller dans un centre de psychologie. Là je vais, oui, parce que j'essaye il faut qu'il y ait une relation de confiance avec son thérapeute. Et puis, parfois il faut changer aussi, parce que quand on change pas, on sait pas si. On est bien avec la personne à qui on se confie, quoi, parce qu'on se confie.
Vous prenez en charge. Ça, c'est important. Vous ne laissez pas les choses à la légère. Vous ne prenez pas les choses à la légère. Denis, merci de nous avoir appelés. Merci d'être venu sur France Bleu ce soir. On se dit tout continue. Après les infos de 21h, vous aussi, vous aurez la parole. Venez nous raconter comment vous vivez, vous aussi, avec un hypochondriaque, à moins que ce soit vous qui êtes directement concerné. 0810 056 055 056.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
On reconnaît un hypochondriaque autant qu'il passe chaque semaine chez les médecins. Je dis bien chaque semaine, hein, c'est pas de temps en temps. Chez les médecins, chez les spécialistes aussi, ils ne parlent que de ça, ne pensent qu'à ça. Sa vie tourne autour de la santé, de sa santé particulièrement, et des maladies qu'il serait susceptible d'avoir. Et c'est pas simple à gérer d'ailleurs, ni pour l'hypochondriaque, ni pour son entourage. On en parle ce soir. Si vous avez connu ça à une période de votre vie, si vous êtes toujours comme ça, ou si quelqu'un de votre entourage est touché, 0810 055 056, pour en parler jusqu'à 22h avec notre invité Michel Declercq, psychologue et sophrologue. Et nous partons en Alsace chez Martine. Bonsoir Martine.
Oui, bonsoir.
Vous vivez avec un homme qui n'était peut-être pas forcément hypochondriaque, mais ça ressemblait un petit peu à ça. Hein.
Oui, tout à fait, oui.
Qu'est-ce qui se passait avec lui? Ça allait jusqu'où?
Oh là là, des crises de panique, la peur de mourir.
Oui.
Surtout, toujours la nuit.
Oui, mais il faut bien voir que derrière l'hypochondrie, parce qu'il n'est pas sûr, effectivement, que votre mari soit un hypochondriaque en tant que tel, il y a toujours une très grande dose d'anxiété, en quelque sorte. Et c'est cette anxiété qui déclenche les crises de panique. Et comme les crises de panique, ça se manifeste par des symptômes physiques extrêmement inquiétants, hein. On a peur d'étouffer, on a un sentiment de mort subite en particulier, il est clair que, effectivement, ça finit par devenir une angoisse concernant la santé, alors qu'au départ, il y a peut-être autre chose que les préoccupations de santé derrière des crises de panique. Alors, personnellement, moi, je conseillerais à votre mari d'essayer de soigner déjà son anxiété. Et oui. Il y a tout de même des thérapies à l'heure actuelle qui sont toutes efficaces.
Oui, mais il est suivi là, actuellement par une psychiatre.
Oui.
Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais en fait, ce qui m'a fait réagir, c'est que vous disiez que... Surtout des enfants surprotégés qui ont cette hypochondrie. Et mon mari, c'est tout à fait l'inverse. Donc,
on ne s'est pas occupé de lui quand il était petit?
Non, pas du tout.
Du tout.
Mais donc, vous savez, une chose et son contraire peuvent avoir le même résultat. Hein. Un enfant qui a le sentiment de ne pas avoir été suffisamment choyé, le sentiment d'avoir été quelquefois abandonné alors qu'il avait mal, peut aussi déclencher effectivement un comportement hypochondriaque.
Et il voit beaucoup son médecin, Martine. Il va souvent voir le médecin, il recherche un petit peu ce qu'il pourrait avoir.
Oui, dans le temps, oui. Il allait régulièrement voir le généraliste pour se rassurer. On appelait SOS médecin la nuit parce qu'il avait des crises de panique. Mais c'est surtout, je pense, par rapport à son enfance, parce que sa maman lui disait « Voilà, peut-être que demain matin, tu vivras plus.
» Ah oui, d'accord.
Voilà, c'est quand
même... Oui, c'est très rassurant pour un petit enfant, ça.
Voilà, je vous ai fait des champignons vénéneux. Vous voyez, ce genre de truc.
Ok, oui, c'est sûr que là, ça aide peut-être pas. On n'a pas parlé du rapport avec les médecins, les spécialistes. Un hypochondriaque est plutôt bien vu dans les cabinets médicaux. Comment ça se passe?
C'est-à-dire que les généralistes ont compris depuis quand même un certain temps qu'ils ont affaire à ce qu'ils appellent des malades fonctionnels, c'est-à-dire des hypochondriaques. Donc, ils manifestent en général une certaine compréhension vis-à-vis des hypochondriaques. Hein. Bon, ils se font pas d'illusions, ils savent bien que l'hypochondriaque vient uniquement pour se rassurer, hein, ou pour recevoir sa dose habituelle de médoc, comme on dit.
Oui, c'est ça aussi le problème, c'est que s'il n'y a pas de médicaments, ils vont pas être rassurés?
S'ils peuvent être rassurés par la parole de leur médecin, s'ils ont suffisamment confiance dans ce médecin. Mais effectivement, les grands pourvoyeurs de l'hypochondrie, j'ai pas peur de le dire, ce sont les spécialistes. Parce que effectivement, ils ne connaissent pas, en général, le malade qui vient les voir. Et par conséquent, tout de suite, ils vont se lancer dans des examens extrêmement sophistiqués, scanners, IRM, examens de laboratoire, tout ce que vous voulez, qui ne vont pas rassurer, bien sûr, l'hypochondriaque, puisqu'on va rien lui trouver, comme il dit. Et puis, le spécialiste, il sait qu'il ne reverra pas ce malade, parce que le malade va être très déçu de ne rien avoir, comme il dit. Donc, ça veut dire que quand il va quitter le cardiologue, ça va être pour aller voir un gastro-entérologue, ou pour aller voir un neurologue, ou pour aller voir n'importe quel log.
Effectivement. Eh ben, on comprend mieux le trou de la sécu, finalement.
Ah, oui, parce que ça coûte très cher.
Ça coûte cher, bien sûr.
Surtout avec les examens actuels.
Martine, merci de nous avoir appelés. On vous souhaite une excellente soirée en Alsace. Et on va rejoindre Olivier, qui nous appelle de Douai. Bonsoir, Olivier.
Allô?
Oui, bonsoir, Olivier. Soyez le bienvenu sur France Bleu. Vous êtes devenu hypochondriaque, vous dites, du jour au lendemain.
Oui, c'est ça, tout à fait. Du jour au lendemain.
Qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain?
Pardon?
Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change comme ça du jour au lendemain? Ah, je crois que vous avez un problème de téléphone, Olivier. On va essayer de vous rappeler dans quelques instants, ça a coupé. On va faire une petite pause et puis on se retrouve avec Olivier, puis avec vous également, qui êtes concerné par le sujet, qui est hypochondriaque ou qui vivait avec un hypochondriaque. 0810 055 056. Il y a des médecins qui veulent nous appeler également sur comment on gère au quotidien un hypochondriaque quand il vient dans son cabinet. Vous êtes aussi les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Les hypochondriaques, c'est le sujet dont se dit tout. Est-ce que vous avez été déscolarisé, parce que vous étiez hypochondriaque avec l'impression d'être tout le temps malade? Est-ce que vous avez été incapable d'aller travailler pour ces mêmes raisons? On parle des hypochondriaques ce soir et on voit bien que parfois ça pose de réels problèmes dans la vie de couple, la vie de famille, mais également à l'école ou au travail. On en parle ce soir avec Michel Declercq, psychologue, sophrologue et auteur du livre Le malade malgré lui aux éditions Erol. On a retrouvé Olivier à Douai. Vous êtes toujours là, Olivier, hein?
Oui,
cette fois-ci, c'est bon. Vous nous avez appelé en disant « je suis devenu hypochondriaque du jour au lendemain ».
C'est ça, du jour au lendemain.
Mais un jour, vous alliez bien et le lendemain, vous vous êtes posé plein de questions, c'est ça?
En fait, j'ai toujours été quelqu'un de joyeux, qui ne s'inquiétait jamais pour rien. Et en 2012, j'ai fait un malaise dans un TGV. Et c'est là que ça a commencé, en fait. Donc j'ai décroché, je pensais que c'était un problème cardiaque. Au final, j'étais hospitalisé et j'avais rien du tout. Donc quand il a fallu reprendre ce train pour repartir chez moi, je ne pouvais plus monter dans le train. Ensuite, c'était les tunnels. Je ne pouvais plus rester les tunnels. Je ne pouvais plus aller aux ascenseurs. Je n'osais plus prendre la voiture tout seul. Et ça s'accentuait. Bon, j'avais été traité sous par antidépresseurs, Xanax et tout ça. Et après, c'était un peu calmé. Bon, j'avais toujours un mal à l'estomac aussi. Et partout où j'allais, c'était une catastrophe. J'ai perdu mon travail suite à ça, parce que je n'osais plus aller travailler tellement j'étais pas bien. Et en fait, ça s'accentuait de plus en plus, jusqu'à tous les jours, même l'année, quand j'ouvre un œil, je suis malade, je suis pas bien. J'ai mal ci, j'ai mal là, et je vais mourir. Et après, ben, j'ai mal à respirer, je m'angoisse, et puis...
Mais au départ, ça s'est manifesté par de la claustrophobie, si j'ai bien compris. C'est dans le train que vous avez vu votre premier
train,
malaise.
Le train, je le prenais régulièrement. Hein. Je prenais régulièrement le train. Jamais eu de souci de rien, quoi. Et c'est un problème qui arrivait dans le train. Et après, j'ai fait une faux des phobies. Et,
Oui, c'est véritablement une phobie, effectivement.
Ah, c'est ça. Mmh.
Après, non, mais d'un seul coup, c'est ça.
C'était chez moi. Il fallait que, si j'avais un problème sur la route ou autre, il fallait que je rentre chez moi tout de suite.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer, parce que je pense que vous y avez réfléchi, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un beau jour, ce train que vous preniez régulièrement, c'est devenu impossible ?
Et justement. Parce qu'au départ, c'était le train, après, c'était la voiture. Après, ça a été...
Oui, ça, je comprends bien. Il y a eu une migration, en fait. Hein.
Ouais, mais au départ... Le problème s'est déplacé, dès que j'en réglais un, le problème, il s'est déplacé ailleurs.
Mais le jour où vous avez eu ce premier malaise, est-ce qu'il y a un incident qui aurait pu expliquer que vous vous sentiez moins bien que d'habitude ?
Non, non.
Non. Non.
Enfin, pour moi, non. Ou alors, je ne l'ai pas encore trouvé, mais pour
oui,
moi,
c'est
non.
Possible.
Mais là, vous nous parlez de phobie, Olivier, mais est-ce que vous avez peur aussi de certaines maladies ? Parce que c'est le propre hein, de l'hypochondriaque, quand même.
Ah ben, tous les jours. Hein.
Ah oui, tous les jours.
Si j'ai mal là, j'ai un cancer de scie. Si j'ai mal ailleurs, j'ai un problème d'autre chose. Si je tousse, ça y est, je vais avoir... voilà. Je suis constamment à dire qu'il va m'arriver quelque chose.
Et si ce n'est pas indiscret, c'est quoi votre travail ?
Moi, j'étais technico commercial en matériel médical pendant des années.
Oui.
Donc...
En matériel médical
par exemple, de votre travail, peut-être ? Parce que le non, train, vous le preniez pour aller travailler, tout de même.
Non, 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 le train, là, je le prenais pour aller voir la famille, donc ça n'avait rien à voir avec le travail.
Ça n'avait rien à voir.
Mmh. Non, non, après, c'était... j'avais, à chaque fois que j'avais peur d'être sur quelque part, parce qu'il allait m'arriver quelque chose. Et même encore maintenant, hein, je me lève la nuit, je suis pas bien, il faut que je réveille tout le monde, je vais mourir... J'ai quelque chose, le lendemain, il faut que j'appelle le médecin, j'appelle les soins médecins la nuit, enfin, etc., etc. Au final, j'ai rien. Alors après, j'ai dit, quand j'ai mal à l'estomac, c'est de l'angoisse, je me trouve des autres problèmes, je vais sur Internet, je cherche, je trouve des choses, peut-être qui correspondent pas, j'en sais rien.
Ce qu'il ne faut jamais faire.
Ce qu'il ne faut jamais faire, voilà, c'est ça. Mais c'est un réel problème, quoi. Même pour moi, retravailler, c'est pénible.
Et qui vous aide, Olivier, aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, plus personne, parce que bon, j'ai suivi chez des psychiatres, des psychologues, etc. J'étais sous traitement lourd pendant 3 ans. Après, j'ai arrêté. Là, ça reprend encore. Depuis quelques mois, ça reprend. Ça recommence. Et en fait, je m'aperçois que quand je m'occupe l'esprit, ben, je l'ai plus. J'ai plus cette sensation de dire il va m'arriver quelque chose. Mais dès que j'ai un vide, ça revient.
Ça, c'est typique aussi de l'hypochondrie ?
Oui, bien sûr. Hein.
Quand on est très occupé, ça va.
Par l'extérieur, ouais. Et plus on est occupé par son intérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Hein. Mais oui. Moi, à votre place, Olivier, je serrais quand même les thérapies corporelles. Parce que, effectivement, vous êtes hypochondriaque, mais vous êtes aussi claustrophobe. Enfin, vous êtes très anxieux. Et par conséquent, vous auriez peut-être intérêt à faire des choses, je ne sais pas, je ne vais pas vous donner de conseils précis, mais du genre relaxation, par exemple.
Ça vaut peut-être le coup. D'essayer.
Ça pourrait déjà vous soulager parce que vous avez quand même une dose d'anxiété considérable hein, qui se manifeste de différentes façons.
Olivier, merci de nous avoir appelé. Bon courage à vous et puis on espère que vous allez trouver la bonne méthode pour essayer de calmer tout ça. On part en Normandie chez Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir Vanessa, bonsoir Madame, Michel, voilà.
Michel et Michel, comment ça va déjà chez vous Michel? On sait qu'en Normandie ça souffle pas mal là, en ce moment.
Oui, là je rentre du travail et il y a des arbres qui sont un peu couchés, j'ai passé une partie boisée, et c'est vrai qu'il y a des arbres un peu couchés, il y a énormément de vent, donc voilà, c'est pas un temps à rester dehors.
Ouais, on le dit, hein, on le répète, il y a une vigilance rouge sur certains départements. Oui. Restez chez vous si vous le pouvez, puis on fera un point complet à 22h avec le flash de Marine Logénie.
Oui, je suis rentrée à la maison, c'est bon.
Au chaud. Michel, votre mari, c'est facile au quotidien de le suivre sur ses maladies ?
Alors, disons que c'est les problèmes qu'il a, bon, c'est souvent enfin des douleurs physiques. Alors effectivement, moi j'en ai pris un petit peu mon parti maintenant parce que j'ai l'habitude. Ça fait 15 ans que nous vivons ensemble et bon, j'ai appris à comprendre à chaque fois qu'il a un mal-être. Enfin, je suppose que ce sont des angoisses par rapport à des événements à venir. Donc, par exemple, quand on a prévu d'aller passer quelques jours dans la famille, il se pose toujours des questions, comment ça va se passer, s'il va y avoir une bonne ambiance, etc. Donc, automatiquement, il a mal, il souffre physiquement quelque part à ce moment-là et ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques jours, voilà, jusqu'à temps que cet événement-là soit passé. Pour les fêtes de Noël, ça a été la même chose. Il a énormément souffert avant les fêtes de Noël parce que j'allais tout faire moi-même, le repas, etc. Donc, il se demandait comment j'allais pouvoir gérer tout ça.
Mais est-ce que c'est de l'hypocondrie, ça, Michel ?
Tel que c'est décrit là, pas tellement, mais quand je dis qu'il a peur d'avoir un cancer, je dis que c'est quand même de l'hypocondrie.
Ça, oui. Oui.
Est-ce que ce cancer-là a une localisation préférentielle, si je peux m'exprimer ainsi ? Est-ce que c'est un organe particulier qui lui fait peur ?
Principalement au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, des choses comme ça. Bon, il a une famille qui est quand même assez touchée, et donc il me dit toujours qu'il vivra beaucoup moins vieux que moi, que ce sera le point à partir, et que un jour ce sera d'un cancer qui partira.
Et comment vous le rassurez, vous, Michel, par rapport à ça ?
Alors, il y a des fois, ça m'agace vraiment parce qu'il, pour moi, il se fait du mal pour rien. Mais voilà, il est persuadé que, enfin bon, il souffre réellement. Bon, là dernièrement, enfin il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. Au lendemain de sa retraite anticipée, enfin il a été en pré-retraite il y a 3 ans. Eh bien, au lendemain de sa retraite anticipée, il a déclaré une sorte de névralgie pudendale. Donc, une névralgie pudendale, ça fait énormément souffrir. Enfin, voilà, donc il a été traité. Il a eu du Lérica qu'il a arrêté de lui-même parce que, bon, il était dans un état second, ça lui allait pas du tout. On a fait tout un tas d'examens, des scanners... IRM, enfin tout un tas d'examens médicaux. Ah oui, non, il a eu des électrodes. Enfin bon, il a vraiment eu la totale au niveau examen et on ne lui trouve absolument rien.
Et ça le rassure pour un certain temps ou ça le rassure pas du tout ?
Ah, ça le rassure pour un certain temps, mais je vous dis, à chaque fois qu'il y a quelque chose de prévu, ce qui se manifeste maintenant, c'est des brûlures dans les jambes. C'est comme si on lui mettait un fluide très chaud dans les veines.
Mais donc, finalement, est-ce que les hypochondriaques n'ont pas à chaque fois qu'on a finalement peut-être tourné la page d'une certaine maladie, d'une pathologie, on n'invente pas ou on ne découvre pas une autre ?
Oui, ce que je découvre et ce que je sais, mais j'en ai la confirmation là, c'est que de plus en plus, l'hypochondrie se greffe sur une autre pathologie. Et là, en particulier, moi, ce que j'entends, c'est que ce monsieur, il a souvent peur de se retrouver en société ou dans des occasions où il va être exposé, en quelque sorte, hein, où il va sortir peut-être de son cocon habituel. J'ai raison ou pas ? Je ne sais pas.
Oui, alors qu'il est très sociable, hein, mais...
Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une phobie sociale qui s'exprime effectivement par de l'hypochondrie, mais l'hypochondrie vient se greffer sur autre chose. Et c'est de plus en plus souvent le cas.
Et donc, il faut traiter d'abord peut-être la phobie sociale.
Il faut traiter en tout cas le fond anxieux.
Oui. Hein,
ça, vraiment, c'est quelque chose sur quoi je ne pourrais que insister. Il faut d'abord traiter le fond anxieux, parce que c'est l'anxiété qui nourrit tout ça.
Merci Michel de nous avoir appelé. Faites un gros bisou à votre mari hein, pour le rassurer. L'hypochondrie, on en parle ce soir sur France Bleu jusqu'à 22h. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre si vous êtes hypochondriaque. Si vous l'avez été, mais que vous avez trouvé une solution justement pour calmer toutes ces angoisses, ou si vous vivez avec un hypochondriaque, 0810 055 056. Les médecins sont aussi les bienvenus, des pharmaciens, pourquoi pas. Vous devez en voir tous les jours qui arrivent à la pharmacie et qui veulent repartir avec des sacs entiers de médicaments. On vous attend sur France Bleu, on attend vos confidences, vos histoires, vos infos aussi sur comment vous avez fait pour vous en sortir. C'est jusqu'à minuit. 22h, pardon, bah non, pas minuit.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous avez l'impression que vous êtes toujours malade, rien ni personne ne peut vous rassurer, sauf peut-être une ribambelle de médecins. Bref, vous êtes hypochondriaque. Comment vivre avec cette maladie, car c'en est une, hein, et comment vivre avec un hypochondriaque? On se dit tout ce soir et on vous attend 0810 055 056. Nous sommes dans l'Indre avec Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous aviez une maman hypochondriaque?
Oui, j'avais une maman qui était hypochondriaque et qui se plaignait tout le temps.
Alors au départ, on l'amenait chez le médecin parce qu'on voulait savoir exactement ce qu'elle avait. Et le médecin ne lui trouvait rien. Et puis, beaucoup plus tard, malheureusement, ma maman se plaignait du ventre. Mais on ne la croyait plus. Parce que on avait tellement marre, on ne la croyait plus. On ne l'a pas emmenée chez le médecin. Pendant des mois, elle se plaignait. Mais on ne l'avait toujours pas cru parce qu'elle se plaignait pas que du ventre. Après, elle se plaignait des jambes, elle se plaignait de ceci, de cela. Donc, on ne le croyait pas. Et puis, ma maman, mais malheureusement, partie d'un cancer parce que le cancer avait évolué.
Et vous en voulez quelque part le fait de ne l'avoir pas cru?
Ben oui, mais on ne savait pas si c'est la vérité ou pas la vérité, c'est ça.
Et vous pensez vraiment avec du recul que votre maman était hypochondriaque, Philippe?
Ah oui, parce qu'elle saignait toujours. Un jour, elle avait mal aux jambes. Une semaine après, elle avait mal à un bras. Elle se disait toujours, je vais partir d'un cancer des poumons, alors qu'elle n'a jamais rien eu aux poumons. Et puis, plein de choses comme ça.
Et quand vous dites que vous l'emmeniez souvent chez le médecin, c'était chez le généraliste ou vous employez d'autres modes de détection? Parce que quand même, un cancer, ça se détecte.
Eh bien, je l'ai envoyé chez le généraliste quand elle avait mal aux jambes, ceci, cela. Mais le généraliste, au bout d'un moment, m'a expliqué qu'elle était hypochondriaque et qu'il ne pouvait rien faire, quoi.
Oui, mais c'est pour ça qu'il aurait peut-être... Enfin, on ne veut pas vous donner de regrets post-mortem, mais peut-être que effectivement le généraliste ne pouvait pas détecter ce cancer.
Philippe, merci de nous avoir appelé, d'être venu ce soir sur France Bleu. Nous partons maintenant à Perpignan chez Céline. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Vous êtes une ancienne hypochondriaque.
Une ancienne hypochondriaque.
C'est bien.
Ça fait 2 ans que je ne suis plus hypochondriaque.
Ça a commencé comment? Est-ce qu'on peut déjà rappeler un petit peu comment vous êtes devenue hypochondriaque?
Alors, moi, j'ai, à 37 ans, j'ai eu une maladie, ça s'appelle un purpura thrombopénique. C'est une maladie de plaquettes et de plasma.
Oui, maladie voilà, du sang.
Du sang, voilà. Oui. Donc j'ai été hospitalisée en soins intensifs pendant plus de mois. Après, je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu de la chance, donc voilà. Je suis sortie de l'hôpital, mais là a commencé la galère, quoi. Tous les jours, j'appelais mon docteur, tous les jours j'allais la voir. C'était une horreur, franchement, c'était une horreur. Je me trouvais des maux de partout. Alors un jour j'avais mal aux pieds, un jour j'avais mal au ventre, un jour j'avais un cancer de ci, un jour j'avais un cancer de ça. J'allais faire une rupture d'anévrisme. Enfin, c'était la galère, quoi. Et la solution, en fait, pour moi, ça a été l'hypnose.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller consulter un hypnotiseur?
Eh ben c'est mes copines qui me disaient ouais quand même t'exagères, puis ma famille quoi qui était en souffrance, mon mari, ma fille, de me voir tous les jours. J'allais travailler à 5h si quelqu'un, bon je travaillais jusqu'à 21h, mais si quelqu'un avait le malheur dans la journée de me dire oh t'as l'air fatiguée, j'appelais mon docteur, je partais direct, j'allais la voir quoi. C'était vraiment mais la moindre réflexion sur mon aspect physique en fait, parce que j'ai pris beaucoup de poids. C'était la fin du monde, quoi. Si on me disait j'étais fatiguée, je faisais une rechute de ma maladie, c'était pas possible autrement, quoi. Donc, du coup, des prises de sang pratiquement tous les jours pendant... Et ça, ça a duré pendant 5 ans. Et l'hypnose, mais j'ai une amie qui me disait, ouais, tu ferais... Parce que je suis quelqu'un de très angoissée, donc elle me disait, tu sais, l'hypnose, c'est quand même pas mal, j'en connais un qui est bien. Et j'ai essayé. Et franchement, je crois que maintenant, je ne peux plus me passer de mon hypnotiseur.
J'ai une maladie comme une autre.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces séances d'hypnose, Céline? Racontez-nous, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi vous avez travaillé?
Sur mon anxiété, en fait. Et puis, bon, après, franchement, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre comme ça, quoi. C'est pas possible, on fait du mal à tout le monde. Et puis c'est tellement bien de vivre sans penser à ce qu'on pourrait avoir, quoi.
Voilà, mais il a duré combien de temps ce traitement?
Mon traitement pour
l'hypnose.
Ma maladie. L'hypnose. Oh, j'ai fait 3 séances régulières, vous voyez, à 1 mois d'intervalle. Et là, maintenant, j'y vais. Je suis quelqu'un qui aime pas prendre l'avion, donc si je dois prendre l'avion, je vais chez mon hypnotiseur. si je me sens trop angoissée par rapport à, au stress de ma fille, je vais chez l'hypnotiseur. Voilà, c'est vraiment... Mais j'y vais une fois, on va dire, tous les 6 mois. Quoi. C'est pas comme avant où j'étais tout le temps en train d'appeler mon docteur. Quoi.
Mmh, ah oui,
mon
c'est sûr que là...
Mon docteur me dit,
c'est
mais
plus mesuré.
Si j'arrive, vous venez plus me voir. C'est vraiment.
C'est le médecin qui se plaint maintenant. Mais
non, je suis traitée pour l'hypertension, donc j'y vais tous les 3 mois pour renouveler mes ordonnances.
Mais pas
après,
plus.
Non. Après non. Voilà. Maintenant, si non, j'essaye. Si même si j'ai mal quelque part, je me dis bon, allez, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas non plus la fin du monde, quoi. Voilà, j'essaye de travailler comme ça et vraiment l'hypnose m'a vraiment aidée, quoi.
Mais c'est important de le dire et c'est surtout très très encourageant pour les autres qui nous écoutent ce soir peut-être de se dire qu'il y a des solutions et qu'elles existent. Ça marche peut-être pas forcément pour tout le monde, mais ça vaut le coup, pourquoi pas, d'essayer. Merci beaucoup Céline de nous avoir appelé et vous aussi venez nous rejoindre sur France Bleu. On parle des hypochondriaques ce soir au 0810 055 056. Dans un instant, nous serons avec Luc en Alsace. Il a été hypochondriaque. Il a voulu se soigner tout seul et il est tombé dans l'alcoolisme.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les hypochondriaques, c'est le sujet dont se dit tout avec Michel Declercq, qui est notre grand témoin, psychologue, sophrologue et auteur du Malade malgré lui. Luc nous a rejoint en Alsace aussi. Bonsoir Luc.
Oui, bonsoir à tous. Moi, je voudrais faire un témoignage. J'ai écouté votre émission avec attention.
Oui.
Donc, je suis hypochondriaque, évidemment. Je suis assez âgé. Et j'ai toujours réglé ces petits problèmes que moi, je voyais grands. C'est-à-dire que si j'avais mal à la gorge, j'avais un cancer à la gorge. Si j'avais mal à la tête, j'avais un cancer quelque part. Et puis j'étais dépressif aussi, donc qu'est-ce que j'ai fait pour régler ce problème-là? Je ne suis malheureusement pas allé chez le médecin, je me suis simplement soigné moi-même, mais avec un produit que je ne conseille pas du tout, parce que c'était beaucoup plus facile d'aller à l'épicerie du coin et de prendre une bouteille, vous voyez.
On est tombé dans l'alcool, en fait.
Exactement.
Mais est-ce que ça n'est pas plutôt votre dépression que vous avez soignée avec l'alcool que l'hypochondrie à proprement parler ?
Luc, on vous parle en même temps. Vous n'avez pas entendu la question de notre grand témoin, je crois, Luc.
Non.
Michel, reposez la question.
Je vous demandais si ça n'était pas plutôt votre dépression que vous soigniez dans l'alcool plutôt que l'hypochondrie à proprement parler.
Je pense que c'était l'ensemble que je soignais. Probablement les deux en même temps.
Oui, d'ailleurs, mais, ça peut être tout à fait lié,
dire,
bien sûr.
De dépressif que j'étais, je suis devenu beaucoup plus dépressif avec ce produit. C'est-à-dire que j'ai fini par faire une cure parce que j'étais arrivé à être suicidaire par ce produit. Parce que on peut être dépressif, mais l'alcool, vous savez très bien que on tourne autour de sa queue, comme on dit, et plus on en prend, plus la dépression elle augmente.
Et par rapport à votre statut d'hypochondriaque, est-ce que, alors je ne vais pas dire qu'il faut boire hein, et ça fait oublier qu'on est hypochondriaque, mais est-ce que vous aviez toujours cette peur des maladies quand même quand vous étiez sans prise de l'alcool?
Bien, c'est-à-dire que ça diminuait, oui, il y avait une diminution de en prenant le produit, j'appelle pas ça, moi je vais appeler ça mon produit, il est vrai que j'avais une diminution, je pensais plus à mon problème.
Oui, parce que sur un temps restreint, l'alcool, c'est quand même un antidépresseur. Alors après, comme vous le dites, ça ne fait que renforcer l'état dépressif, mais sur le moment, c'est un antidépresseur.
Et aujourd'hui, Luc, vous avez réussi à régler les deux, l'hypochondrie et l'alcool ?
Oui, c'est-à-dire que l'alcool, je l'ai réglé. Dire que je ne suis plus hypochondriaque, je me pose la question maintenant... à l'inverse, en me disant que j'ai pu faire beaucoup de dégâts dans mon sur moi, parce qu'on sait très bien que l'alcool apporte beaucoup de méfaits sur
sur l'entourage, bien sûr.
J'avais peur de vous être fait du mal, en fait.
En réalité, voilà, si vous voulez, c'est pour ça que j'interviens, que je mets en garde, parce que effectivement, du départ, c'était peut-être pas grave, puisque c'était dans ma tête que j'étais hypochondriaque. J'ai pris un produit qui me calmait cet état dépressif, mais en même temps, j'ai conscience que j'ai abîmé ma santé avec ce produit-là. Donc, c'est pour mettre en garde beaucoup de personnes qui pensent que ce produit-là va calmer beaucoup de sensations du bronze, comme vous dites, du bronze hypochondriaque. Mais il faut faire attention parce qu'il y a le retour du bâton.
Et on voit bien surtout qu'il y a plusieurs choses qui sont liées. On a parlé d'anxiété, on a parlé de dépression. Et l'alcoolisme aussi, bien sûr. Merci Luc de nous avoir appelés ce soir sur France Bleu. Voici Véronique Sanson avec son nouveau titre.